15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, questions sexo. Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la résistance aux antibiotiques, entre le mauvais usage de ces médicaments ou leur utilisation abusive, l'antibiorésistance pourrait en 2050 faire plus de morts que le cancer. Avec notre invité, le professeur France Roblot, chef du service d'infectiologie au CHU de Poitiers, on fera le point sur la situation, sur la recherche aussi, et nous verrons enfin que nous pouvons tous agir pour limiter ce problème. Enfin, le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, c'est plutôt une alerte dont il nous parlera. Les autorités sanitaires s'inquiètent de l'augmentation des accidents graves chez les jeunes qui utilisent le gaz hilarant à des fins récréatives. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler de l'herpès labial, celui qu'on connaît mieux sous le nom de bouton de fièvre, cette maladie virale qui a tendance à revenir régulièrement par poussée. Mais pourquoi justement et comment le traiter? On vous dira tout. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, il sera question de ces doutes que peuvent avoir parfois certains jeunes concernant leur orientation sexuelle. Elle nous dira comment on peut l'expliquer.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Et tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première question, c'est celle de David, 40 ans.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Voilà, j'ai une copine qui a eu un bébé et elle m'a dit qu'il avait eu 10 au test d'Apgar. Par contre, j'ai pas trop compris, je sais pas ce que c'est ce test. Merci pour votre réponse, bonne journée, au revoir.
Alors 10, waouh, une meilleure note dès le début de la vie, c'est chouette. Jimmy, c'est quoi ce test d'Apgar qu'on fait tous? Bon, quand on a eu un bébé, en général, on en a entendu un petit peu parler, mais ça consiste en quoi?
Alors, le test de score d'Apgar, c'est ce qui permet d'évaluer l'état de santé, la vitalité d'un nouveau-né et son adaptation à la vie extra-utérine. C'est un score qui a été mis en place pour la première fois en 1952 au congrès d'anesthésie par un médecin américain qui s'appelle Virginia Apgar et a donné le nom du test. Voilà, voilà. Un peu mégalo, mais elle a raison. Et c'est examen, il est pratiqué systématiquement soit par une sage-femme, soit par un médecin. On le fait à 1, 3 et 5 minutes et ça permet d'évaluer la fonction respiratoire, cardiaque et neurologique d'un nouveau-né.
Alors justement, c'est quoi les critères là pour évaluer tout ça? Je crois qu'il y en a 5.
Il y en a 5, exactement. Ouais. Donc le premier, c'est la fréquence cardiaque, donc on la mesure. Mm-hmm. Sa respiration, donc sa fréquence respiratoire. On examine ses réflexes, son tonus musculaire.
C'est là qu'on fait marcher le bébé, là, non? En général, à la
réflexes,
naissance, c'est ça.
Ouais. Voilà, avec les réflexes qu'on dit archaïques, mm-hmm. Qui disparaissent ensuite. Et puis la coloration de la peau, on a des points qui vont entre 0 et 2.
Par critère.
Exactement, par critère. Et donc 5 critères avec 2 points maximum, ça fait 10 points. Qu'on a à 1, 3 et 5 minutes.
D'accord. Alors j'imagine que plus la note est faible, donc c'est proche de 0, moins il est en forme, ce bébé malheureusement. Et à l'inverse, ceux qui ont 10 sur 10, c'est que bon, il pète la forme, quoi.
Alors oui et non, parce que souvent, il faut parfois un peu de temps au bébé pour atterrir, c'est ce que disent les médecins et les sages-femmes, mm-hmm. De ce milieu intra-utérin où ils étaient dans un liquide amniotique, où leur système cardiovasculaire n'était pas du tout le même, où leur système respiratoire est différent. Et puis ils sont un peu agressés, parfois stressés, parfois ils ont un peu inhalé de liquide amniotique. Et du coup, ils ont un peu plus de mal et donc on se laisse un peu de temps, 1, 3 et 5 minutes. Et en règle générale, lorsqu'à 5 minutes, c'est pas terrible, on surveille un peu plus et ils refont un score à 10 minutes. Et lorsque le score est moins bon, en dessous de 7, mm-hmm. Et bien là, ils font quelques manœuvres de réanimation pour libérer les voies aériennes et faire en sorte que l'enfant aille mieux.
Et même s'il est mauvais, ça n'a pas d'incidence sur le développement futur du bébé, hein?
Absolument
le test,
pas. Ce n'est pas un test qui reflète une pathologie pour la suite. C'est juste une façon de savoir s'il faut pratiquer des manœuvres de réanimation et savoir s'il faut surveiller ou pas un bébé, est-ce qu'il va avoir besoin d'oxygène, un peu d'aspiration ou parfois des soins un peu plus importants.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, on va passer à la deuxième question. Cette fois, c'est Franck, 47 ans. On l'écoute.
Oui, hello. Bonjour, Mélanie. Bonjour, docteur Mohamed. Je vous appelle parce que on a beaucoup parlé du plomb avec Notre-Dame de Paris qui a brûlé. On a parlé de saturnisme également. Voilà, quel est le risque réel et en quoi ça consiste exactement? Merci beaucoup, au revoir.
Alors Jimmy, on va pas revenir effectivement sur le cas de l'incendie de Notre-Dame, mais juste un point sur ce qu'est réellement le saturnisme, c'est quoi?
Alors le saturnisme, c'est une intoxication au plomb. Le plomb, c'est un élément qui n'a aucune raison d'être dans l'organisme et qui ne sert a priori à rien, si ce n'est à être toxique. Il est mesuré par ce qu'on appelle la plombémie, et on détermine ce qu'on appelle un seuil d'intervention à 50 microgrammes par litre. Seuil d'intervention, c'est le seuil à partir duquel on va faire une déclaration obligatoire ou avoir une enquête auprès des autorités sanitaires et on va mettre en place des mesures de protection. Mais on sait que même en dessous de 50, à partir de 12 microgrammes, on peut avoir des effets toxiques de ce plomb. Et donc, le plomb, il pénètre à la fois par les voies digestives, donc lorsqu'on l'ingère par la bouche, par les voies respiratoires, par la peau, par voie placentaire, notamment chez les femmes enceintes. Et il est stocké très longtemps, surtout au niveau des os, ce qui fait qu'il peut être relargué par la suite et entraîner des effets secondaires.
Très rapidement, est-ce qu'il y a des populations qui sont particulièrement à risque en cas d'intoxication au plomb ?
Oui, les enfants, attention, dès que il faut savoir qu'en 1995, on avait un quart des enfants qui avaient un taux supérieur à 50 microgrammes.
Ah oui.
C'est lié notamment aux anciennes peintures. Et on sait qu'à partir de 12 microgrammes, on perd du QI chez l'enfant. On sait qu'il y a une relation très nette entre baisse des performances intellectuelles et intoxication au plomb. On sait que ça peut entraîner des déficits sensitifs au moteur chez la femme enceinte, des malformations chez les enfants et chez l'adulte, maladie rénale, anémie, hypertension artérielle, troubles du comportement. Bref, l'intoxication au plomb, elle est rare, mais elle est grave.
Merci beaucoup Jimmy pour cet éclairage. Alors si vous aussi, comme Franck qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au bien-être, bien sûr au 39-21, 50 centimes d'euros la minute surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Jimmy Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il nous alerte plutôt, le nombre d'accidents avec l'utilisation du gaz hilarant chez les jeunes est de plus en plus préoccupant. Et puis on accueillera aussi notre invité du jour, le professeur France Roblot, infectiologue avec qui on fera le point sur les résistances aux antibiotiques. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. Alors à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le professeur France Roblot. C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui Jimmy, vous nous parlez de nouveaux risques liés à l'inhalation du protoxyde d'azote, qu'on appelle aussi gaz hilarant. Vous nous en aviez parlé il y a quelques mois suite à une première alerte. Malheureusement aujourd'hui, rebelote du côté du ministère. On s'inquiète parce qu'il y a une hausse du nombre d'intoxications graves, hein, c'est ça ?
Exactement. Alors déjà, il faut rappeler aux gens ce que c'est que ce gaz, que tout le monde ne le connaît pas. C'est un gaz qui est utilisé normalement dans le milieu médical à type d'anesthésie. On l'utilise notamment lorsqu'on doit faire des soins dentaires, lorsqu'on doit faire une plaie suturée chez un enfant ou lorsqu'on doit par exemple réduire une luxation d'épaule. Donc c'est un gaz à usage médical ou industriel, notamment dans le système de pressurisation. Donc les petites cartouches de chantilly qui nous permettent de faire la chantilly sont en accès libre et normalement c'est simplement ces usages-là. Ça a été détourné et utilisé comme gaz hilarant lorsqu'on aspire les petites cartouches de siphon de chantilly.
D'accord. Alors qu'est-ce qui se passe de nouveau là ? Pourquoi cette nouvelle alerte ?
Eh bien, initialement, on avait des cas de consommation dite festive. Des gens, de temps en temps, s'amusaient et utilisaient de façon occasionnelle. Et sauf que là, on s'est rendu compte qu'il y a un nouveau public qui était touché, un public beaucoup plus jeune, des collégiens, des lycéens.
Ah oui.
Et surtout, un usage répété, quotidien, au long cours, avec de très grandes quantités.
Ah oui, d'accord. Et c'est quoi les risques, justement, à court terme de cette
consommation ? Alors, sur le long terme, il y a un risque, déjà, d'asphyxie par manque d'oxygène, puisque vous aspirez
juste
ce protoxyde
ça, quand
d'azote.
Même. Ouais,
et ce protoxyde d'azote, dans la cartouche, il est pur. Il n'y a pas d'oxygène. Alors qu'à l'hôpital, lorsque vous avez le masque, vous avez un mélange à 50% de protoxyde d'azote et à 50% d'oxygène. Vous avez un risque de perte de connaissance, donc de troubles du rythme, de brûlure liée au fait que vous aspirez le froid du gaz expulsé de la cartouche. Vous pouvez perdre votre réflexe de toux. Et donc à ce moment-là, un risque de fausse route, le fait d'être vertigineux, désorienté et de chuter et de vous faire mal. Ça, c'est sur le court terme.
Et alors sur le long terme, il y a des choses encore plus graves, hein, je crois.
Eh bien oui, sur le long terme, c'est-à-dire soit l'utilisation régulière ou à forte dose, on a un risque d'atteinte de la moelle épinière, un risque de carence en vitamine B12 et surtout une altération de son métabolisme qui fait que même lorsque vous en ingérez, il ne marche plus avec des séquelles neurologiques. Et puis ensuite, on a des anémies et quelques troubles psychiques. Ça, c'est ce qu'on avait décrit.
Ouais.
Et on a vu des effets secondaires graves qu'on avait observés, notamment en Asie et en Angleterre. Et bien, ces effets secondaires graves, désormais, on les a ici.
En France,
et justement, d'où l'alerte du ministère de la Santé, c'est qu'on a eu 25 signalements depuis janvier 2019 du réseau Addictovigilance. Et donc, on a eu 4 cas de sclérose combinée de la moelle.
Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air hyper grave.
C'est des maladies neurologiques équivalentes, si vous voulez, à la sclérose en plaques.
Oui,
donc,
d'accord.
Des troubles neurologiques. Un cas de tétraparésie, donc, c'est-à-dire une atteinte motrice des 4 membres. Une paraplégie, donc des 2 membres. Des polyradiculonévrites aiguës, une myélite aiguë transverse. Tout ça en lien à l'inhalation du protoxyde d'azote est plus dramatique sur ces 25 cas. 10 personnes ont gardé des séquelles. Donc c'est des gens qui vont avoir des troubles neurologiques probablement à vie à cause de l'inhalation de ces cartouches. Bref, ça
c'est
peut être sympa,
mauvaise idée.
C'est très mauvais, très dangereux, et vous risquez vraiment sur le long terme de vous bousiller la santé et surtout d'avoir des atteintes neurologiques graves.
Merci docteur Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions. Et à présent, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour, c'est le professeur France Roblot, chef du service d'infectiologie au CHU de Poitiers.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour professeur Roblot.
Bonjour.
Alors, des chiffres de la santé, de Santé publique France ont été publiés en début de semaine. Est-ce qu'on voit sur les antibiotiques, les résistances aux antibiotiques, c'est que malgré les campagnes de sensibilisation, comme celle qu'on connaît tous, qui avait eu lieu en 2002 avec le slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique », eh bien, on n'est pas toujours, on n'est toujours pas des bons élèves en France, hein.
Voilà, moi j'aime bien voir le verre à moitié
plein. Ah, vous aussi, moi aussi.
Donc, en l'occurrence, il y a un petit mieux. Mais effectivement, ce petit mieux, on l'attendait d'abord, on l'attendait depuis 2010. Il y a un petit mieux entre 2017 et 2018, mais on reste quand même les mauvais élèves de l'Europe, puisqu'on est les troisièmes plus gros consommateurs d'antibiotiques en Europe.
Ah oui, il y a qui devant nous, si on est au troisième?
On ne va pas faire de délation, mais il y a quand même les Grecs. Et Chypre.
Ah oui, et après nous quoi. C'est nous qui consommons le plus. D'accord. Bon, donc c'est effectivement.
Et on sait que la situation de la résistance bactérienne en Grèce est catastrophique.
D'accord. Et résultat, en France, on a vraiment beaucoup, beaucoup de décès chaque année à cause de ça.
Alors en 2012, on avait des données qui étaient de l'ordre de 12 500 décès liés à des infections dues à des bactéries résistantes. Dans le dernier rapport Santé publique France, c'est 5 000. Alors, je crois qu'il faut se.
C'est des milliers en tout cas,
voilà,
c'est sûr.
Voilà, c'est des milliers de cas de patients qui meurent. Parce qu'ils ont des infections dues à des bactéries résistantes.
Jimmy ?
Et justement, de quoi meurent-ils ces patients qui ont du coup une infection pour laquelle on ne peut pas traiter avec des antibiotiques car ils sont résistants ?
Alors, parfois, ils meurent directement de leur infection parce qu'on est ce qu'on appelle en situation d'impasse thérapeutique. Et bien souvent, cette infection demande des traitements très complexes et va finalement faire décompenser un état de base qui est déjà altéré.
Mais c'est quelqu'un qui a une pneumonie, par exemple, c'est ça ? Et qui va pas, chez qui on ne va pas trouver d'antibiotiques qui fonctionnent ?
Ça peut être quelqu'un qui a une septicémie, ça peut être toutes sortes d'infections.
Et ça se passe que à l'hôpital quand même. Les gens, ils attrapent ces bactéries résistantes à l'hôpital.
Eh ben non.
Ah non.
Parce que ces bactéries, elles sont pour l'essentiel dans notre flore, ce qu'on appelle notre microbiote, c'est-à-dire dans notre tube digestif, sur notre peau. Et ça, c'est vraiment une chose qu'il faut bien bien expliquer aux gens, c'est que les bactéries résistantes, c'est nous qui les hébergeons.
Professeur Roblot, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, on poursuit sur ce sujet très préoccupant des résistances aux antibiotiques. On va revenir d'abord sur comment on en est arrivé là, dans quelle situation précisément on consomme trop ou mal les antibiotiques. Vous verrez par exemple que ne pas aller au bout jusqu'au dernier jour du traitement antibiotique prescrit par votre médecin, eh bien ça accentue le phénomène. On vous expliquera pourquoi. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur France Roblot, chef du service infectiologie au CHU de Poitiers. Alors aujourd'hui, professeur, on parle des résistances aux antibiotiques. C'est la semaine d'ailleurs de sensibilisation à cette problématique. Et d'abord, ce qu'on voit, c'est que les Français commencent à en avoir conscience quand même de ce problème. Dans un sondage qui vient de sortir, le baromètre Pfizer-IFOP, 86% des Français jugent l'antibiorésistante préoccupante. Donc c'est plutôt bien ça.
Oui, ça c'est très bien. Ce qui est un peu moins bien, c'est que 63% d'entre eux pensent que ça ne les concerne pas.
Ah, c'est grave mais pas chez moi, c'est ça?
C'est ça. C'est, c'est grave mais chez les autres seulement.
Et c'est pas le cas, hein, effectivement, même en France. Hein.
Non, c'est pas du tout le cas. On voit des situations incroyables où des femmes jeunes qui n'ont aucun terrain particulier vont faire une cystite due à des bactéries extrêmement résistantes. Et ça, c'est notre quotidien.
Et on n'arrive pas à les guérir, c'est difficile en tout cas.
On arrive à les traiter pour l'instant, mais parfois, elles vont être obligées d'aller à l'hôpital pour recevoir des antibiotiques qui ne sont disponibles qu'à l'hôpital pour une infection qui devrait être traitée en ville par le médecin généraliste.
Oui, on en arrive à des situations effectivement un peu ubuesques. Alors, d'ailleurs, on voit qu'on n'est pas les champions non plus en termes d'observance thérapeutique. Je vais préciser, 4 Français sur 10 ne finissent pas leur traitement antibiotique. Pourquoi c'est mal de ne pas aller au bout de ce traitement antibiotique ?
Alors, ce qui est très important, c'est de respecter vraiment à la fois la dose et la durée. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas sous-doser son traitement. Si on vous dit qu'il faut le prendre 2 fois par jour, mais il ne faut pas s'amuser à le prendre qu'une fois par jour, parce que là, on crée les conditions idéales pour détruire toutes les bactéries les plus sensibles et laisser survivre uniquement celles qui sont un peu plus résistantes.
Ah, c'est bon à savoir ça. Voilà. Et ne pas aller au bout, c'est pareil.
Alors, on réfléchit beaucoup sur la durée actuellement pour essayer de faire des recommandations pour réduire au strict minimum. Mais il y a une durée incompressible.
Il faut aller au bout, c'est très important. Absolument. Si on veut pas avoir de développer des bactéries résistantes. Jimmy,
90% des antibiotiques sont prescrits en médecine de ville. Et donc,
c'est chez vous, Jimmy.
Exactement,
donc,
ouais. Exactement. Et donc pas à l'hôpital. Sauf que on estime à 30 à 50% ces prescriptions inadaptées. Et donc ça veut donc dire que nous, médecins généralistes, bah oui, il faudrait peut-être qu'on se remette un petit peu en question et qu'on est aussi responsable de cette antibiorésistance.
Alors, on est tous responsables. Hein. Responsables et pas coupables.
Elle ne veut pas vous accuser. Voilà. Vous avez...
Non, il n'y a pas d'abord jeter la pierre et dire voilà, que les médecins sont mauvais, font mal leur travail, mais peut-être que nous, il faut qu'on se remette aussi en question.
Il faut que tout le monde se remette en question parce que 30 à 50% des prescriptions hospitalières sont aussi inadaptées. Je crois que la première étape, c'est chez le médecin généraliste et c'est l'étape du diagnostic. Et c'est là que c'est essentiel. Ce n'est que le médecin qui peut déterminer s'il faut ou pas prescrire des antibiotiques.
D'accord. Et parfois, ils ont la pression des patients aussi. Hein. C'est ça aussi. C'est-à-dire que c'est multifactoriel. C'est la faute un peu des médecins, c'est la faute de plein de choses différentes, mais aussi du patient, c'est ça?
Oui, mais c'est pour ça que je dis que le médecin seul peut déterminer s'il faut ou pas prescrire des antibiotiques.
Oui, on ne va pas se mentir. Les patients qui commencent la consultation en disant « Écoutez, docteur, j'ai une bronchite, je tousse et je crache vert. J'ai un impératif dans 3 jours. L'année dernière, le docteur... »
Ça, ça vous arrive ?
Bien sûr, c'est tous les jours. L'année dernière, on m'a refusé les antibiotiques. J'ai fait une pneumonie, rendez-vous compte. Je ne veux pas que ça recommence.
Donc,
quel
direct, donnez-moi des antibiotiques.
Et donc, forcément, il y a une pression d'emblée lors du début de la consultation. Et on sait très bien qu'on va mettre plusieurs minutes, alors qu'il peut avoir une salle d'attente blindée, parce qu'on n'a pas beaucoup de médecins, un accès aux soins compliqué, et bien parfois, on peut dire qu'on cède à la facilité, mais on est un peu influencé, et malheureusement, par les malades.
Professeur Roblot, la surconsommation aussi des antibiotiques, elle vient de l'automédication, c'est-à-dire qu'il y a des antibiotiques qu'on a à la maison, qu'on garde, parce qu'on n'a pas fini la boîte la fois précédente, et ça, certains les réutilisent, et ça aussi, ça joue dans ce problème ?
Ah ben oui, parce que, si vous voulez, les gens, ils ont un reste d'antibiotiques, alors, c'est le vendredi... À 21h, la maman, elle va pas aller appeler le médecin généraliste. Hein. Elle sait qu'il va lui donner cet antibiotique, puisqu'il l'a donné la dernière fois.
Elle sait, mais en fait, elle sait pas.
Mais elle sait pas. Ouais, elle pense qu'elle sait.
Et elle le donne à son enfant.
Et du coup, elle le donne à son enfant. Puis au bout de 24-48 heures, elle voit bien qu'il va mieux, puisque dans 90% des cas, c'était une infection virale.
Donc ça passe, en fait.
Donc, voilà. Là, elle sait plus trop quoi faire. Elle va arrêter, mais elle prend le risque d'avoir sélectionné des bactéries résistantes chez son enfant.
Alors, professeur Roblot, on va continuer cette discussion dans 3 minutes. Vous restez avec nous. Europe 1. Dans un instant, on va parler de la recherche qui est très active. On continuera aussi à parler des pourquoi de cette antibiorésistance, notamment des tests rapides qui peuvent servir. On parlera des chercheurs à travers le monde qui sont en quête de nouvelles molécules, de nouveaux antibiotiques. Et on parlera aussi des phages. Vous verrez, c'est passionnant, ce sont des virus qui attaquent ces bactéries. On vous dira tout, on revient très vite. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le professeur France Roblot. Elle est chef du service infectiologie au CHU de Poitiers. On parle de l'antibiorésistance aujourd'hui. Alors juste professeur, on va repréciser quand même. Quand on parle d'antibiorésistance, c'est pas un patient qui devient résistant à un antibiotique, c'est la bactérie elle-même. Enfin, c'est qui est résistant en fait ?
Effectivement, c'est pas du tout les patients qui résistent, ce sont les bactéries. Parce que les bactéries sont des organismes vivants et donc par définition, dès que vous leur mettez quelque chose pour les combattre, eh ben, elles s'adaptent et elles trouvent des moyens pour résister à l'antibiotique que vous avez mis pour essayer de les détruire.
Et ça, le patient lui-même, il peut rien faire. Hein ?
Absolument rien.
Jimmy ?
Et dans l'optique de moins utiliser les antibiotiques, on a ce qu'on appelle les tests diagnostiques de gorge. Tests rapides qui permettent de détecter si une angine est bactérienne ou virale. Est-ce que la solution ne vient pas d'augmenter son utilisation ?
Ah mais ça, c'est tout ce qu'on aimerait. Les médecins généralistes nous disent souvent que c'est un peu trop long. Alors, je pense que voilà, il faut se pencher sur cette question.
Bah, Jimmy, vous en utilisez, vous, c'est long ou pas ?
On l'utilise, alors ça prend 5 à 7 minutes, mais il faut aussi s'organiser. Si un patient me dit qu'il a une angine, bah, je commence par examiner la gorge, je fais le test. Donc on laisse le test pendant quelques minutes, et puis après, derrière, je continue l'examen clinique, on vérifie la tension et tout le tralala. Donc peut-être que nous, il faut qu'on en fasse un peu plus. Et parfois, je suis étonné d'avoir des patients qui me disent « c'est la première fois qu'on me fait ce test, je ne le connaissais pas ». Alors que j'ai déjà eu plein d'angines. Donc, et c'est aussi, alors je vais peut-être aborder un sujet délicat, mais c'est un acte qui n'est pas coté. Si finalement les médecins avaient, ou si on le faisait chez le pharmacien, est-ce que ce serait une solution ? Là, c'est aussi
quelque
chose qu'on peut
faire. D'ailleurs, chez le pharmacien, ça sera fait bientôt.
Tout à fait, c'est prévu à partir du mois de janvier. Tout ce qui permet d'en faire plus, à mon avis, est bon à prendre et à évaluer. Parce que le pharmacien, si le test est positif, c'est relativement simple, il va envoyer le patient chez son médecin traitant.
Pour avoir des antibiotiques.
Pour qu'il puisse lui prescrire des antibiotiques. Si le test est négatif, il y a toute une étape diagnostique qui va être compliquée. Et là, je pense qu'il faudra bien encadrer les choses et bien évaluer surtout.
Un test négatif, c'est-à-dire que ce n'est pas une angine bactérienne, mais c'est pas forcément une angine virale. Il peut avoir une pneumopathie, il peut avoir une sinusite.
Donc, il faut aller chez le médecin quand même.
Mais tout ce qui, je pense qu'il surtout il faut qu'on sache évaluer les mesures qu'on met en place. Mmh. Et si on s'aperçoit que ça permet de les utiliser plus et de ces tests et de prescrire moins d'antibiotiques sans prendre de risques, eh ben il faudra le faire, bien sûr.
On disait tout à l'heure que le problème c'est parfois qu'on a donc un reste de médicaments à la maison, qu'on fait de l'automédication, c'est pas bon. Pourquoi on nous prescrit tant de médicaments d'ailleurs? Pourquoi il nous en reste finalement? Il y a des endroits ou des pays où on fait de la dispensation à l'unité, c'est-à-dire qu'on donne des médicaments vraiment le nombre qu'il faut. Ça en France ça a été testé, ça serait pas une solution aussi?
Alors ça a été testé dans le Sud-Est et effectivement on a diminué de 13% le nombre de comprimés ou de gélules qui ont été délivrés. Et assez curieusement, on a même, de façon marginale, mais on a même amélioré l'observance thérapeutique. Ah. C'est-à-dire que les gens, quand ils avaient pile leur nombre de comprimés, eh ben, ils les prenaient tous.
Quand vous prescrivez, je sais pas, 2 comprimés par jour pendant 5 jours, donc 10 pilules, les gens, ils prennent les 10 pilules.
Ils prennent les 10. Ah ouais. Alors que quand vous prescrivez 2 comprimés par jour pendant 5 jours et qu'ils ont une boîte où il y en a 12, eh ben, parfois, ils n'en prendront que 6 ou 8.
Ah oui, c'est étonnant, ça.
Ah bah, du coup, alors, si l'expérimentation est favorable, ça va être généralisé en la France?
On sait pas
en
trop où ça en est, je crois.
Voilà, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait clair, mais en tout cas, c'est une recommandation européenne.
Alors, face à ce problème mondial de l'antibiorésistance, la recherche, elle en est où en France et ailleurs? On s'active, j'imagine. Par exemple, est-ce qu'on cherche de nouveaux antibiotiques plus efficaces?
Alors oui, alors là, les industriels n'arrêtent pas de chercher des nouveaux antibiotiques et c'est très bien. Depuis 2015, on a de nouveau certaines nouvelles molécules qui apparaissent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a là actuellement des molécules avec un nouveau mécanisme d'action.
C'est-à-dire
des nouveaux antibiotiques qui utiliseront vraiment un mode d'action complètement différent des précédents. Ce qui fait qu'on a...
Ils sont intelligents en quelque sorte, c'est ça ?
Oui, ils vont utiliser des canaux et passer avec le fer dans la bactérie. Enfin, ils vont.
C'est un peu complexe, mais
c'est un peu complexe. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ils ne seront pas sensibles au même mécanisme de résistance que les anciens, puisque c'est pas le même mode d'action.
D'accord. Et il y a d'autres pistes, hein, je sais, pour cette lutte contre l'antibiorésistance. Et notamment, on s'intéresse de plus en plus aux phages, la phagothérapie pour lutter contre les résistances. Expliquez-nous, c'est quoi ?
Alors, les phages, ce sont des virus qui sont capables de détruire des bactéries au site de l'infection. Mais ce sont des virus spécifiques d'une bactérie. Donc déjà, on ne sait pas en fabriquer vis-à-vis de toutes les bactéries. Et effectivement, il y a des études qui sont en cours, en particulier chez le brûlé. Alors, il y a eu des résultats un peu discordants parce qu'ils n'ont pas pu utiliser la dose qu'ils voulaient, etc. Mais on a pas mal d'observations cliniques, des gens qui, en situation, comme on dit nous dans notre jargon de sauvetage, ont reçu des phages et avec beaucoup de succès.
Jimmy ?
Mais du coup, on n'a pas créé de nouveaux antibiotiques depuis combien de temps ? Ça date de quand, le dernier antibiotique qu'on a découvert ?
Eh bien, pas si longtemps que ça, c'était 2015.
Ah oui, quand même.
Oui, okay. Je pensais que c'était beaucoup plus loin.
Oui, mais parce qu'on a eu tout un creux avant. Vous m'auriez posé la question en 2014, je vous aurais dit, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de nouvelles molécules.
Bon. Donc il y en a quand même, la recherche est active. Juste, je reviens sur ces phages. Vous avez dit que c'est des virus qui détruisent des bactéries, mais je crois que ça existe depuis des millénaires, cette histoire de phages.
Ça existe
pourquoi
depuis...
on y revient là on l'a oublié fin...
Ça existe depuis très longtemps. C'était surtout fabriqué dans les pays de l'Est où peut-être les process de fabrication n'étaient pas tout à fait aussi rigoureux que chez nous. Et puis on avait les antibiotiques. On a vécu un âge d'or.
Ouais, c'est ça. Donc on n'avait pas besoin. Donc on revient à des vieilles méthodes finalement qui peut-être seront efficaces. Les chercheurs, ils travaillent aussi sur des vaccins. Alors pas les vaccins comme on l'entend aujourd'hui, mais des vaccins, donc pas préventifs, des vaccins thérapeutiques contre ces bactéries résistantes. Ça fait partie des pistes aujourd'hui ?
Tout à fait. On a des vaccins, on a des essais en cours sur des vaccins contre des souches de staphylocoques, contre des souches de colibacilles, contre des souches de Clostridium difficile,
qui sont
une bactérie qui donne de la bactérie,
hein,
qui donne de la diarrhée, pardon. Oui, 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 qui sont des bactéries qui peuvent être très résistantes. Et donc, on a des essais en cours.
Jimmy ?
Et puis, je crois que vous voulez aussi insister sur le fait qu'il faut déjà bien se vacciner avec les vaccins qu'on a déjà. Et que finalement, la rougeole, la coqueluche, en quoi se vacciner contre, par exemple, la coqueluche pourrait nous protéger de l'antibiorésistance ?
Alors, j'ai plutôt prendre, si ça vous ennuie pas, le vaccin contre la grippe, si vous voulez.
Parce que c'est l'actualité. Très bien, la grippe.
Eh bien, en se vaccinant contre la grippe, si on va voir on n'ira pas voir son médecin avec de la fièvre, en tout cas si on va le voir avec de la fièvre, il saura d'emblée que ça n'est pas la grippe. Donc ça évite les prescriptions inutiles, puisqu'on sait très bien que pendant l'épidémie de grippe, on prescrit beaucoup plus d'antibiotiques. Donc là, si les gens ne font pas la grippe, ils auront moins d'antibiotiques.
Il suffit de regarder ça pour se rendre compte que déjà il y a un problème. La grippe, c'est virale, il n'y a pas besoin d'antibiotiques.
C'est une maladie virale, il n'y en a pas.
Et chaque année, quand il y a la grippe, on voit que y a des prescriptions d'antibiotiques explosent.
Elles augmentent parallèlement à l'épidémie de grippe. Les deux courbes sont strictement parallèles.
Donc là, le mésusage, il est très clair.
Oui. Et la deuxième chose, c'est que malgré tout, au décours de certaines infections virales comme la grippe ou la rougeole, il peut y avoir des complications vraiment d'origine bactérienne. Et là, on les évite aussi quand on est vacciné.
Un dernier conseil, là c'est pour tout le monde, pour lutter contre ces bactéries résistantes. Un des conseils tout simples, c'est se laver les mains. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est très important, on est d'accord ?
C'est très important parce que c'est ce qui limite la transmission. Et donc c'est évidemment très important de ne pas les fabriquer, mais comme on les a déjà fabriqués, eh ben, lavons-nous les mains pour ne pas les transmettre.
Et pour nous donner une idée, juste pour nous motiver encore s'il y en avait besoin, une bactérie sur ma main, qu'elle soit résistante ou pas, elle va se développer à quelle vitesse?
Alors une bactérie, ça se multiplie en 20 minutes. Un homme en 30 ans. Donc on fait pas le poids, hein, clairement. Elles vont beaucoup plus vite que nous. Alors dans le milieu extérieur, parfois elles mettent un peu plus de temps, mais c'est clair qu'elles sont beaucoup plus aptes à s'adapter précisément à l'environnement que nous.
Merci beaucoup professeur Roblot d'être venu sur notre plateau. Grâce à vous, on en sait plus sur l'avancée de la recherche, notamment pour lutter contre les résistances aux antibiotiques. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, on s'est intéressé à l'herpès labial, celui qu'on connaît mieux sous le nom de bouton de fièvre, cette maladie virale qui a tendance à revenir régulièrement en poussée. Mais pourquoi, justement, et comment la traiter? On fait le point dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, on parle d'un bobo qui peut être assez pénible, l'herpès labial. Savez-vous ce que c'est que ce bouton de fièvre qui pourrit souvent la vie à ceux qui en ont régulièrement? Pourquoi ça revient justement et comment ça se soigne? Benjamin Lévesque a été vous poser les questions, toutes ces questions sur l'herpès évidemment. On écoute son micro-trottoir.
Un herpès labial pour moi, c'est quelque chose qui ressemble à un bouton.
Herpès comment?
Labial.
Labial, bah c'est dans la bouche.
C'est un virus qu'on garde à vie. Une fois qu'il s'est déclenché, il reviendra.
Ça doit pas être beau à voir. Ça doit pas sentir très bon.
Ça commence, on sent des petites brûlures autour de la bouche.
Enfin, un simple bisou peut suffire.
Il fallait éviter certains aliments pour pouvoir soigner plus facilement cet herpès. Style ananas.
Il y a des facteurs qui déclenchent les herpès, le stress, les règles chez les femmes.
On peut le traiter avec une crème, je pense.
Du miel aussi, sinon ça fonctionne.
T'évites d'embrasser qui que ce soit, n'importe quel contact, tu vas draguer personne et tu vas te faire soigner.
Alors Jimmy, on va faire un point sur cette herpès labiale. Donc le bouton de fièvre, c'est quoi d'abord?
Alors c'est donc une infection virale cutanée qui est dite récidivante, qui se manifeste au niveau des lèvres, à la jonction entre la peau et la muqueuse. Elle est due à un virus qui s'appelle...
Alors les lèvres de la bouche, on précise, hein, parce qu'il y a aussi l'herpès génital. Donc
ah oui,
là on parle de la bouche. Hein,
exactement, on parle de la bouche voilà. Parce que là c'est une infection à herpès simplex virus de type 1, mm-hmm. Donc qui touche la partie supérieure du corps. Mais on a aussi l'herpès simplex virus 2.
On en parlait une autre
qui
fois.
Qui touche plutôt la partie basse du corps. Mais là on parle de la partie haute.
D'accord.
Et donc cette infection virale, elle se transmet au travers d'un contact direct lors de avec la salive, donc un bisou suffit.
Ouais.
Et cette infection, on la rencontre lors de l'enfance. On l'a quasiment toute eue. Et ce qu'on appelle cette primo-infection, c'est-à-dire la première fois qu'on rencontre ce virus, mm-hmm. Elle est souvent asymptomatique, on ne s'en rend même pas compte.
Ah oui, il n'y a pas de symptômes. Mais donc le problème avec ce virus de l'herpès, ok, on l'a vu dans l'enfance, on l'a croisé dans l'enfance, mais une fois qu'on l'a attrapé, il dort et puis il se réactive et ça revient et ça revient.
Exactement,
et voilà.
Ouais. Le virus chemine le long des nerfs sensitifs qui correspondent au territoire infecté et il se loge au niveau d'un ganglion nerveux, au niveau de la moelle, et il reste endormi. Et puis sous l'effet de la fatigue, du stress, d'une infection virale, ce virus se redéveloppe, se multiplie et arrive au niveau du territoire du visage et donne ce qu'on appelle l'herpès labial ou ce fameux bouton de fièvre.
D'accord.
Alors que 80% de la population a déjà eu ce virus, il est à l'état latent, on a simplement 20% des gens qui auront une forme récidivante et qui vont avoir cette herpès.
Et ça, c'est
un
pénible.
Peu
hein, je connais quelques amis qui en ont souvent, c'est très, très gênant. Il vient se loger donc sur la lèvre, hein, vous avez dit, c'est ça. Mais une fois qu'il est là, et les vésicules d'ailleurs qui vont avec, hein, c'est souvent en grappe, hein, ce petit bouton de fièvre, ça dure combien de temps?
Eh ben, vous l'avez dit, c'est des petites grappes de vésicules, un petit bouquet, c'est souvent unilatéral, donc c'est simplement d'un côté, à la jonction entre la peau et la muqueuse. Et donc on a ces petites vésicules qui forment ce qu'on appelle ce bouton de fièvre. Ça contient un liquide qui contient plein de virus, donc c'est très contagieux. Ensuite, ça forme une bulle, puis une croûte, et ça tombe. Et il faut une dizaine de jours avant de s'en débarrasser.
D'accord. Et ce bouton de fièvre, moi je crois, on m'avait dit, enfin je sais que ma maman en avait, et qu'elle me disait qu'elle avait de la fièvre avant qu'il sorte, et qu'elle sentait qu'il allait arriver.
Ouais,
on le sent arriver?
Alors, il n'y a pas de fièvre en vrai dans c'est une infection, puisque finalement, ce n'est pas une vraie infection sévère, c'est une récurrence d'une infection qu'on a. Et donc, on peut sentir, il y a une sensation de cuisson.
On
a l'impression qu'il se passe
sortir,
quelque chose,
là,
exactement.
Ouais.
Donc, il y a des signes précurseurs avec une sensation de brûlure, de chaleur, de tension localisée, suivi ensuite de petits picotements ou de démangeaisons. Ensuite, on a l'infection cutanée, mais ça donne quasiment jamais de fièvre.
très rapidement, ça se traite quand même, il faut commencer très tôt, je crois, hein, dès qu'on a ses premiers picotements presque.
Oui,
c'est ça,
alors souvent on prescrit des crèmes antivirales, ça marche moyen-moyen, des crèmes anesthésiantes, ça marche moyen-moyen.
C'est ce que disent les gens qui ont ça.
Il faut surtout
hein.
désinfecter avec, par exemple, un antiseptique comme de la bétadine pour assécher. Et puis si on veut vraiment traiter, il faut prendre les antiviraux en comprimé, il faut en prendre pendant plusieurs jours et c'est le seul traitement efficace. Et chez les personnes qui font des infections à répétition, le fait d'en prendre au long cours évite les récidives.
D'accord, au moins la repousse plus tard, on en aura moins souvent. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec notre sexologue Catherine Blanc, il sera question de ces doutes que peuvent avoir parfois certains jeunes concernant leur orientation sexuelle. Elle nous dira comment on peut l'expliquer. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question d'Antoine, 22 ans, je vous la lis. Je suis actuellement en couple avec ma petite amie, j'apprécie vraiment le sexe avec elle, mais depuis peu, je ressens au fond de moi la crainte d'être homosexuel. J'en suis donc venue à me tester en regardant des pornos gays et je n'ai même pas pu me toucher car cela provoquait chez moi un sentiment de dégoût. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, d'abord, c'est normal à cet âge-là de se chercher comme ça, d'hésiter, est-ce que je suis homo, pas homo, à 22 ans, et c'est normal de pas savoir encore, éventuellement ?
Alors, c'est pas une question de savoir ou pas savoir. En tout cas, ce qui est intéressant, au-delà de l'âge, c'est de se dire que tout d'un coup, il y a un doute. Alors, d'où vient ce doute ? Est-ce que c'est un désir refoulé qui émerge ? Est-ce que c'est la pollution, j'allais dire, d'un discours ambiant sociétal qui remet en question la légitimité d'être hétéro et qu'il faudrait trouver si vraiment, en moi, il n'y aurait pas éventuellement quelques élans homosexuels ? Est-ce que ça raconte des failles ou dans la relation elle-même, dans la relation de qui il vit ? Enfin, il peut y avoir des tas de raisons à cela.
Jimmy ?
Mais il dit qu'il s'interroge et que du coup, il a regardé un porno gay, mais que ça, finalement, ça le dégoûte. Est-ce que, quand il dit dégoûte, c'est juste qu'il n'assume pas ou qu'il n'est pas encore prêt à finalement se rendre compte que peut-être qu'il serait attiré aussi par les hommes ?
De toute façon, le dégoût, par définition, c'est l'autre côté de la photo du goût. Donc ça raconte quand même l'idée que ça pourrait me plaire et que ça puisse me plaire m'inquiète. Et du coup, le dégoût est plus une défiance et plus une défense que ce n'est l'affirmation pleine et entière d'un truc qui ne le concernerait pas. Alors, ceci étant, dans les auditeurs qui nous écoutent, beaucoup diront « Non, moi, je trouve ça vraiment dégueulasse de voir des homos qui s'embrassent, de voir des homos qui pourraient imaginer des homos qui pourraient faire l'amour, etc. Et » et souvent, évidemment, que ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont homosexuels, mais quand même, être aussi réfractaire, évidemment, ça rend compte de choses qui nous questionnent tous. Prenez un enfant, par exemple, qui voit un couple papa et maman qui s'embrassent et ils font bah, c'est dégueulasse, ouh, ah. Mais c'est parce que ça les questionne, c'est parce que ça les interroge et c'est parce qu'ils cheminent aussi de ce côté-là. Donc en fait, je pense que dès lors que l'on est tranquille, on peut voir, entendre, comprendre, reconnaître de soi ou pas, prendre de la distance, mais on n'est pas dans des goûts exagérés, passionnels, ou des dégoûts tout aussi passionnels.
Mais c'est quoi le problème d'Antoine, en fait ? Est-ce que finalement, il serait pas juste bisexuel ? C'est possible aussi, il s'interroge, il se pose la question, peut-être qu'il aime bien les deux sexes, en fait.
Alors, avant de parler de bisexualité, il faut quand même savoir que nous construisons tous de ce point de vue-là. C'est-à-dire que nous allons nous voir selon le modèle maternel et selon le modèle paternel. Donc, de fait, les enjeux relationnels de type homosexuel ou hétérosexuel nous concernent tous. Puis ensuite, les choses s'affirment un peu plus et on refoule une partie qui ne nous concerne plus parce qu'on est passé à autre chose. Donc, il se peut, en effet, qu'il ait des résurgences de cela qui n'est que dans la construction ou des résurgences parce que, en effet, il y a quelque chose qui n'arrive pas à décider ou à s'autoriser la liberté d'une affirmation d'un genre et qui, du coup, flirtouille avec les deux positions.
Jimmy ?
Puis on peut aussi peut-être le rassurer qu'il n'a pas de crainte à avoir d'être homosexuel. C'est pas une tare, c'est pas une maladie. On peut avoir crainte d'être tombé malade, mais là, utiliser ce mot, c'est peut-être pas nécessaire du tout.
Non, exactement. D'ailleurs, la notion de maladie a été malheureusement que trop utilisée en d'autres siècles. De là à dire qu'il faudrait que l'on passe tous par être et hétéro et homo, bien sûr sûr que non. À chacun la liberté de faire avec son histoire, puisque ce sont aussi nos histoires psychiques qui sont à l'origine de l'un comme de l'autre. Mais pour autant, ça n'est évidemment pas une maladie.
Est-ce qu'il doit en parler à sa copine? Parce qu'il dit qu'actuellement, donc, il est avec une jeune femme, avec qui d'ailleurs il dit que le sexe se passe très bien. Mais est-ce qu'il doit éventuellement lui parler de ses craintes, là, de peut-être, ben, je pense que peut-être je suis homosexuel, je sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il lui en parle ou c'est personnel comme cheminement?
Moi, je trouve que c'est personnel dans le sens où ça pourrait être très déstabilisant pour cette jeune femme d'avoir le sentiment que non seulement elle ne peut pas combler, c'est toujours douloureux de dire par exemple oui, je m'interroge, savoir si la voisine pourrait pas m'intéresser aussi. C'est déjà pas confortable. Alors imaginez éventuellement que ce soit aussi un homme aussi.
Plutôt
donc
toi,
du coup,
ouais.
À aucun moment elle pourra être
rien y faire.
Elle pourra avoir l'idée de pouvoir être au rendez-vous et combler son partenaire. Donc je trouve que c'est pas une bonne idée. Et puis ce serait une façon, d'une certaine manière, de demander une caution, de demander un aval, comme une maman qui viendrait écouter son questionnement. Je pense que ça concerne la personne uniquement et, le cas échéant, le psy qui irait consulter éventuellement.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Et donc à demain, voilà, c'est la fin de cette émission. Demain dans Sans Rendez-vous, une émission consacrée aux conflits familiaux. La spécialiste Isabelle Filioza nous donnera les meilleurs conseils pour gérer nos adolescents. Mais tout de suite on retrouve Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous, l'équipe est sauvage arrive 2 heures pour rire et découvrir en compagnie d'une invitée aujourd'hui qui va nous apprendre à être un peu moins nul en déco. Elle va nous apprendre à avoir du goût. En ce qui me concerne, je sais, il y a du boulot. C'est ça.
Merci. Merci Mathieu, je vous souhaite une bonne émission. Restez sur Europe 1.